Alors bonjour à tous, bienvenue dans notre église ce matin. Pour commencer, je vais prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Seigneur, je veux te rendre grâce parce que tu nous accordes l'opportunité, Seigneur, de nous réunir, Seigneur, entre frères et sœurs, pour te louer et t'adorer. Et Seigneur, je veux te demander de bénir ce culte, Seigneur, d'être avec chacun, Seigneur, des participants, d'être avec chacun des membres de cette église, Seigneur, et sympathisants. Je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs à ta parole et que nous nous sentions libres, Seigneur, de pouvoir te louer et t'adorer. Seigneur, que tout ce qui soit fait, Seigneur, et dit ce matin, le soit pour ta seule gloire. Amen. Alors, pour commencer, on va commencer par les annonces. Donc, réunion de prière chez Daniel et Phébé ce jeudi à 19h30 et non chez Maggie comme c'était prévu à la base. Distribution de la soupe vendredi à 18h30. Vous avez quelqu'un pour la soupe, pour la préparer? Oui? Ok, parfait. Samedi, j'ai 30 à 9h. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire. Samedi 8 février à 14h, cercle féminin. Donc, je ne sais pas s'il faut s'inscrire, par contre. Il faut s'inscrire pour le cercle féminin?
Non.
Ok, parfait. Parfait. Chez les hommes aussi, tout le monde a invité, évidemment. Prévoir pour les quantités, toujours. Quelques nouvelles de Valdi. Donc, il nous a envoyé un mail. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu. Je vais le lire. Salut à tous. Me voilà de retour après les souffrances. Je suis rentré hier à l'hôpital, entré en urgence le vendredi soir, poussé par ma belle-fille. Donc c'était il y a une semaine. Ma belle-fille, qui l'appelle mon ange gardien. J'ai été opéré le mardi de toute urgence au lieu du jeudi, car mon cas s'aggravait. Maintenant, une infirmière vient faire mes soins à domicile pendant 7 jours, mais cela va beaucoup mieux. En tout cas, j'étais surpris par tous les coups de téléphone et les prières. Je tiens à remercier tout le monde. Nous sommes quand même une grande famille. À bientôt, Valdi. Donc apparemment, le processus de guérison suit son cours. Donc, il est à la maison. On demande juste pas de visite pour le moment. S'il est encore assez fatigué. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez sonner à Edwige. Et elle sera un plaisir de vous répondre. Alors, des nouvelles aussi de Myriam. Donc tout se passe bien apparemment. Oui. Voilà. Donc on vous remercie aussi pour les prières et aussi des nouvelles de Léon. Nouvelles de chez Michael.
Oui, je suis hier, je n'ai pas eu le temps de l'envoyer par mail, mais il est là avec nous en plus. Donc Léon va bien aussi et il remercie pour les prières aussi. C'est quand même formidable la dynamique qu'on a pour le moment au niveau de l'église à se soutenir les uns les autres. C'est bien. Amen.
Seigneur. Alors je vous invite à vous lever. Nous allons commencer par un chant, le chant numéro 12, Un jour dans tes parvis.
Un jour dans tes parvis.
Dans tes parvis,
Alors, je vois que Sabine Storgel est là. Bonjour, Sabine. Tu aurais des nouvelles de ta maman ?
Oui. Bon, je te laisse. Alors, ça se doit un peu à ce que tu as fait son travail. Elle est sûrement bien. Elle a fait un grand progrès. Donc, elle peut rentrer à la maison vendredi prochain. Merci, Seigneur.
Merci. Merci. Alors, nous allons passer à la lecture de la parole. Et nous allons lire dans le psaume 27. Nous allons lire tout le psaume. Psaume de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi, pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je t'amaudirai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Tu me laisses pas, tu ne m'abandonnes pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas aux désirs de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi, de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et pour introduire le prochain chant, je vais relire les trois premiers versets. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair. Mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Le roi David savait très bien en qui se confier et à qui soumettre ses doutes, ses craintes et ses frayeurs. À l'Éternel. Et aujourd'hui, comme lui, nous pouvons nous tourner vers le Père grâce à Jésus, le seul médiateur, pour lui déposer tous nos fardeaux. Alors chantons le numéro 217, Mon secours est en toi. Je vous invite à vous lever.
Créateur des
Chaque instant sur ses enfants. Le Dieu de notre salut, notre force, le refuge de nos vies. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire encore ce matin. Alors chantons les chants 64, je t'aime, ô Éternel, 47, jour de joie, et 58, il est le Dieu de mon salut. Chantons. Cherchez ma face. Je cherche ta face, l'Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins. Et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et avant de passer un moment dans la louange par la prière, nous allons chanter le chant numéro 222, Vase d'argile.
Ma retrouver, ma restaurer. Et sans vrai. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
protégé par le sang de l'agneau. L'agneau sans défaut et sans tâche. Il s'est offert volontairement en sacrifice pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur parce que nous n'avons plus à avoir peur de comparaître devant toi. Parce que tu as pris à un défenseur. Seigneur, nous n'avons pas mérité ce pardon, nous n'avons pas mérité cette grâce. Seigneur, tu nous l'apportes en Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs. Amen.
Amen.
Nous voulons te bénir parce que dans ton cœur, rien n'est changé pour l'homme. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui a des projets merveilleux pour nous. Nous voulons te bénir parce que, ici même, nous voulons saisir ces promesses. Nous l'avons saisi un jour dans notre vie. Et nous considérons jour après jour que rien dans ton cœur ne change. Tu es pour nous un refuge. Tu es pour nous un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Quand on tourne les regards vers toi, tu es présent. Tu réponds présent à notre secours, à notre appel. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour ce rôle merveilleux de Père que tu as à l'égard de tes enfants. Et lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque l'ombre de la mort pointe sur nos vies, lorsque nous traversons cette vallée de larmes de Baca, ce qui fait la différence pour nous, tes enfants, c'est ta présence. Seigneur, elle est pour nous ce rayonnement de joie, même dans la détresse. C'est ce qui fait, Seigneur, notre force, elle est en toi. Parce que tu es présent dans nos vies. Et nous voulons, Seigneur, te bénir. Il y a un ennemi qui pourchasse l'homme. Mais nous voulons, Seigneur, te bénir parce que, à la croix du calvaire, tu as vaincu cet ennemi. Le dernier ennemi, c'est la mort. Et nous pouvons dire, avec ce cri de victoire proclamé sur la croix du calvaire, ô mort, où est ta victoire? Ô sépulcre, où est ta victoire? Seigneur Jésus, tu es le grand triomphateur. Et cet ennemi, ce dernier ennemi, nous croyons qu'il est déjà vaincu. Parce que, un jour, ceux qui nous ont devancés reviendront à la vie avec un corps glorieux. Et nous qui serons encore présents sur cette terre, nous serons transformés en la même image. Ce secours, il est en toi, Seigneur Jésus, parce que tu es le grand vainqueur. Et nous voulons nous appuyer sur tes promesses qui sont immuables. Tu es fidèle, tu ne mens pas. Seigneur, nous croyons en toi et nous voulons te demander que ce que nous disons devienne force dans nos vies. Que ton esprit prenne de ta parole et la rende vivante pour chaque jour de notre vie. Alors, Seigneur, pour la croix du calvaire, pour ta victoire, pour ce salut merveilleux, pour la gloire qui nous attend devant toi, notre Dieu, et au nom du Seigneur Jésus, nous t'adorons. Amen.
Amen.
Et Seigneur, venons de chanter que tu places ton trésor dans des vases d'argile, Seigneur. Pourtant, ce vase d'argile, Seigneur, il paraît bien fragile, Seigneur. Un vase de l'argile, Seigneur. Pourtant, Seigneur, tu places un vin nouveau dans ce vase, Seigneur. Pourtant, vin par ton sang, Seigneur, qui a coulé, Seigneur, qui représente ce vin nouveau, Seigneur. Faire une nouvelle alliance, Seigneur, une nouvelle alliance de pure grâce envers nous, Seigneur. On veut encore te remercier aujourd'hui, Seigneur, pour ton amour envers nous, jour après jour. Amen.
Éternel, je veux te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es notre force, Seigneur. Tu es notre bouclier, notre forteresse. Seigneur, tu veilles sur chacun d'entre nous, chaque jour. Que nous nous rendions compte ou pas, Seigneur, tu es là. Et Seigneur, nous, quel grand Dieu, Seigneur, nous avons. Quel grand Dieu tu es. Et je te rends grâce pour ce sacrifice, le sacrifice de ton Fils. À la croix. Par lui, Seigneur, nous avons accès à toi. Et nous pouvons nous joindre, Seigneur, aux prières, Seigneur, du psalmiste. Car, Seigneur, nous sommes toi, ta famille, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Et tu prends soin de nous. Béni soit l'Éternel, car il écoute la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte et je le célèbre par mes chants. Amen.
Amen.
J'inviterai JF, qui vous invitera à la salle scène.
Se mit à table avec ses apôtres et il leur dit : J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu et le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous. Alors, le Seigneur, ce soir précis, se mit à table avec ses disciples afin de commémorer la Pâque. Et ce sera sa dernière Pâque, nous dit-il. À travers celle-ci, il a pris deux éléments en particulier, le pain et le vin. Ces éléments étaient déjà présents dans la Pâque des Juifs qui leur rappelle la délivrance du pays d'Égypte. Le pain et le vin représentent le corps et le sang de Christ, le corps qui a été crucifié, et le sang qui a coulé sur la croix. On pourrait s'arrêter là, arrêter l'analyse ici, mais on pourrait aller encore aller un peu plus loin en relisant les paroles que Jésus a eues avant ce jour-là.
Notamment dans Jean, chapitre 6, au verset 35, il dit ceci: « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Alors, on nous dit ici que le Seigneur est le pain, non pas physiquement bien sûr, mais spirituellement parlant. Ce pain représente son enseignement. Et quand nous croyons, quand nous l'acceptons, elle est source de satiété. Elle nous remplit bien l'estomac, bien notre esprit. Nous n'avons pas besoin de rien d'autre pour nous nourrir spirituellement. Et concernant le sang, l'Ancien Testament nous dit que le sang, c'est la vie. Le raisin qui sert à faire le vin, qui représente le sang, a été aussi fabriqué en étant foulé aux pieds, afin d'en faire sortir le jus. Et sur la croix, nous savons que Christ a été comme foulé du pied, méprisé et rejeté. Mais à travers son sang, nous avons la vie. Et Jésus nous dit aussi au travers de son enseignement qu'il est ce chemin, qu'il est cette vérité et qu'il est cette vie. Alors le sang ainsi que le pain nous ramènent tous deux à l'enseignement, la parole de Jésus. La scène, bien que nous rappelle les souffrances de Jésus, doit aussi nous rappeler son enseignement. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est aussi notre pain qui nous nourrit jusqu'à satiété. Prions. Seigneur, quand nous nous approchons de toi, quand nous nous approchons de cette table aussi, nous voulons nous rappeler de ce sacrifice que tu as accompli sur la croix. Mais nous voulons aussi nous rappeler de tout cet enseignement que tu nous as laissé, tout cet amour que tu nous as démontré, toutes ces bonnes paroles que tu nous as laissées afin que nous grandissions, que nous comprenions qui tu veux que nous soyons. Seigneur, ce matin, nous voulons nous rappeler de tout cela en prenant ce pain et ce vin, ce fruit de la vigne, afin qu'elle descende dans notre esprit et que nous grandissions comme tu veux que nous soyons. Amen.
Amen.
Alors, je vais vous inviter, tous ceux qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, qui ont pris par obéissance, sont passés par les eaux du baptême, pardon, de se lever afin de faciliter la distribution. Et j'invite mes frères du conseil qui sont présents, Paolo, Michael, je vais demander aussi à Ernest, si tu veux bien. Salvatore. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant: « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Je demandais à Paolo si tu veux bien prier pour le pain.
Le Seigneur, tu le connais puisque c'est toi qui nous as créés, et tu sais combien nous sommes des personnes oublieuses, des personnes qui nous laissons facilement distraire par nos occupations, nos activités quotidiennes. Et c'est pourquoi tu as voulu instituer cette table qui contient ces éléments. Et tu as voulu que nous
De même, après le repas, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Demandez à Michael de prier.
Oui, Seigneur, on a parlé de vin nouveau, Seigneur. Ce vin qui représente, Seigneur, ton sang, Seigneur, qui a coulé pour nous, Seigneur. Et nouveau, Seigneur, parce que c'est une nouvelle alliance. Une alliance de grâce, Seigneur, envers nous. On veut se souvenir, Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur, de ce que tu as accompli pour nous sur la croix, Seigneur. Et on va encore te bénir pour ça. Amen.
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 Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. Et son retour, nous l'attendons impatiemment et nous prions jour après jour afin qu'il ne tarde pas son retour. Pas trop en tout cas, afin que nos souffrances s'arrêtent. Et nous pouvons louer notre Seigneur jour après jour et comme d'habitude, comme notre habitude, nous pouvons chanter ensemble. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Votre offrande au Seigneur et pour ce faire on va chanter aussi le chant 239 de « Toi la gloire, miséricorde insondable ». Alors je demanderai à Dany et à Olivier, vous pouvez passer pour les offrandes. Merci.
Facile de faire la présidence. Hein. Ben, bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Et avant de démarrer mon message, j'ai juste quelques annonces qu'on n'a pas faites, mais je me suis gardé le privilège. La semaine prochaine, les Royal Rangers, on va leur remettre leur étoile, on va leur remettre leur badge. Alors on fait une petite fête ici en bas de l'église à 14h. Donc il y a les parents qui sont invités, mais il y a toute l'église qui est aussi invitée pour faire cette petite fête. Donc on vous attend nombreux à 14h dimanche prochain. Il y a aussi le camp d'église. Donc on a des feuilles ici. Ceux qui n'auraient pas encore reçu le mail, venez me trouver. regardez dans vos spams d'abord, puis venez me trouver, parce que je vérifie chaque fois si j'ai bien les bonnes adresses mail. Et voilà pour le camp. Alors le camp vous demande quand même rapidement de vous inscrire et de payer en acompte pour voir les places qui vont rester. Donc le camp, c'est du, c'est du 8 mai au 10 mai, donc c'est au même endroit qu'il y a deux ans. Donc voilà, prenez un flyer, inscrivez-vous et voyez éventuellement pour payer la compte. Je le mettrai là-bas tout à l'heure. Alors concernant cette prédication, eh bien, j'ai vraiment pris du plaisir à préparer cette prédication. Et alors je vais essayer de faire un pont avec les ponts de Salvatore de la semaine passée. Alors le Salvatore nous a parlé de ponts la semaine passée, mais moi je vais vous parler de destruction de ponts. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte qu'en cas de guerre, la première chose qu'on va détruire, c'est les ponts, parce qu'ils sont stratégiques. Mais moi aussi, je vais vous parler de destruction. Je vais vous parler de la destruction d'une ville et de sa muraille, Jérusalem. Et pour ce faire, je vais vous proposer de faire une série sur Néhémie. Je vais vous proposer, je vais essayer en tout cas, Dieu voulant, une fois par mois, de faire un chapitre de Néhémie, plus ou moins, parce que dans Néhémie, il y a des fois des listes assez longues. Je vous passerai les listes, mais je vais essayer de faire ça, Dieu voulant. Alors, Néhémie, ça signifie Dieu réconforte ou Dieu console. Et c'est un petit peu ce qu'on a un petit peu besoin dans notre église pour le moment. C'est un petit peu les lectures que j'avais il y a 2-3 mois, quand les difficultés pour l'église ont commencé. Et vous allez voir aussi que je me suis un petit peu amusé à aller voir les descriptions des noms. Parce que vous savez que du temps des Israélites, bien souvent, il y avait le nom était lié à une signification. Et le titre que j'ai essayé de donner à cette prédication, alors j'aime pas de donner des titres, j'ai cherché pendant longtemps après un titre à la prédication, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui va revenir souvent, c'est l'honneur et la gloire de Dieu. Mais on va d'abord prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est vivante, Seigneur. Merci parce qu'elle peut nous apprendre tous les jours des choses nouvelles, Seigneur. Merci de m'aider à rendre finalement ta parole, Seigneur. Merci d'utiliser ma bouche, Seigneur, pour donner le message que tu veux donner, Seigneur. Et merci de nous aider, Seigneur, à avoir des oreilles attentives ce matin. Amen. Alors, je vous invite à prendre Néhémie. Alors, je pense que c'est important d'avoir sa Bible avec soi. Si vous n'avez pas une Bible, j'en ai mis quelques-unes sur la chaise au bout de l'église. Là. Vous pouvez en prendre une. Et si vous voulez prendre dans cette Bible-là, c'est à la page 333. Mais j'ai à cœur d'utiliser ma Bible. Donc on va lire dans ma Bible, dans la version Genève. Parole de Néhémie, fils d'Acalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du désespoir. La muraille de Jérusalem a des brèches et ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai. Et pendant des jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ah, éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes les alliances et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis dans la prière devant toi, en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés, contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Nous avons vraiment mal agi envers toi. Nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements, si vous les mettez en pratique, alors quand même vous seriez bannis à l'extrémité du ciel. De là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai vers le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Ô Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Alors on va faire un petit contexte d'abord, un petit peu d'histoire et un petit peu de géographie. Alors d'abord, le livre de Néhémie au départ, il n'est pas seul. Esdras et Néhémie au départ ne faisaient qu'un seul livre. Si vous lisez Esdras, si vous lisez la fin d'Esdras, vous allez voir qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose. Il n'y a pas de conclusion, on dirait qu'on a oublié quelque chose. Mais c'est parce que c'était vraiment un seul livre. Il y a aussi, pendant cette période aussi, pour ceux qui connaissent, il y a le livre d'Esther qui se déroule aussi pendant cette période. Alors, les livres de l'Ancien Testament ne sont pas regroupés de manière chronologique. Ils sont regroupés par style littéraire. Le Pentateuque, les livres historiques, les livres de la sagesse, les livres prophétiques. Mais chronologiquement, je n'ai jamais réussi à le dire, le livre de Néhémie devrait se trouver dans les derniers. Il devrait se trouver peut-être juste avant Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, qui va ensuite laisser une période de silence de 400 ans avant la naissance de Jésus et donc le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous allez voir que je vais mettre des dates. Alors, quand je parle de dates, on est dans l'Ancien Testament, donc c'est toujours avant Jésus-Christ. Je n'ai pas toujours remis, mais on est là en 587 avant Jésus-Christ. Le roi babylonien Nabucodonosor, ou Nabucodonosor, la définition où son nom veut dire Dieu du feu, a entièrement détruit Jérusalem, son temple, sa ville et ses murailles, et a brûlé les portes et envoyé en exil une bonne partie des Israélites. Mais, en 539, c'est alors la chute de Babylone par le roi perse Cyrus qui a fait chuter Babylone. On va voir dans le récit, si on prend Esdras et Néhémie, il y a trois personnages importants. Alors moi, je vais n'en parler que d'un, mais on va se mettre dans le contexte. On a le premier personnage qui est Zorobabel, un an après la chute de Babylone. Un deuxième personnage qui est Esdras. Donc les références à droite, c'est où on trouve ça dans les livres. Et le dernier, celui qui va nous concerner, c'est Néhémie. Alors, on va voir que ces trois personnages vont avoir des récits exactement les mêmes dans ces passages-là. On va voir que Dieu va inciter le roi perse à mandater un leader, un responsable, ces trois noms-là, en donnant des ressources et du soutien nécessaires. Chaque leader, dans son récit, va faire face à une grande opposition, mais il va réussir à la surmonter. Et on va voir que les trois récits se terminent par une consternation, par un abattement. Voyons le premier, Zorobabel. En 538 avant Jésus-Christ. Zorobabel, ça signifie né à Babylone. Alors Zorobabel était probablement, n'a pas été exilé, il est né à Babylone, mais il est chargé de faire revenir le peuple d'Israël vers Jérusalem. Et c'est le roi Cyrus qui va le faire. Le roi Cyrus, donc, veut dire trône ou puissance suprême. Alors pourquoi est-ce qu'il le fait revenir? Les Perses ont voulu un petit peu changer la politique qu'avaient les Babyloniens. Ils veulent une certaine tolérance religieuse, une certaine tolérance pour nos croyances. Ils essayent comme ça, au niveau politique, de regrouper plus de peuples. Ils se rendent compte que ça n'a pas fonctionné avec les Babyloniens, alors ils essayent autrement. Et c'est suite à un édit du roi Cyrus, un édit de tolérance, que Zorobabel a la permission de retourner à Jérusalem. Pour nous, on sait très bien que ce n'est pas le roi Cyrus qui va faire ça, mais c'est Dieu qui lui a incité ça. Avec Zorobabel, il va y avoir un retour d'un grand nombre d'exilés. Et sa mission, ça va être d'abord, il va reconstruire l'autel des sacrifices, et ensuite, il va reconstruire le temple. Ça va lui prendre plus ou moins 20 ans. Et il va faire face, comme j'ai dit tout à l'heure, à une opposition, mais une opposition plus externe. Le deuxième personnage, Esdras. Esdras qui veut dire secours. Là, c'est un autre roi, le même que pour Néhémie. Le roi, ça non plus, je n'ai pas réussi beaucoup à le dire, le roi Artaxerxès, qui veut dire un grand roi. Alors lui, il va revenir avec les objets du temple. Alors si vous lisez Esdras, je pense que c'est 8 ou 9, c'est impressionnant, tous les objets du temple avec lesquels il va revenir. C'est le roi perse qui va aller voir en Babylone, qui va aller voir en Perse, tous les objets du temple. Et il va revenir avec des tonnes d'objets, des tonnes d'or et des tonnes d'argent. Alors lui, il ne va pas nécessairement reconstruire, même s'il y aura quand même de la reconstruction, mais il va avoir plus des réformes religieuses. Il va enseigner la Torah. Et il va avoir une opposition plus interne. Et alors Néhémie, pas trop en parler, puisque c'est le personnage qu'on va parler, lui, c'est aussi le roi Artaxerxès qui le fait revenir. Et lui alors, il va revenir avec une grande escorte militaire. Il va reconstruire la muraille de Jérusalem et sa ville. Et il va avoir une vive opposition aussi bien interne qu'externe. Voyons-nous ensemble, verset 1. Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisleu, la 20e année, comme j'étais à Suse, la capitale. Alors on va faire un peu de géographie maintenant. Je n'ai pas le pointeur de Boris, mais
Suse est ici, et Jérusalem est là. Et ça, c'est l'Empire perse. Babylone est là au-dessus. Hein, donc on voit qu'ils ont été exilés, qu'ils sont descendus sur Suse, ils vont être partis. Et on voit que Jérusalem est à 1200 km de Suse.
J'ai pris une autre image, c'est la carte du actuelle, notre carte du monde. Et c'est marrant de voir que... pourquoi ça résonne si fort ? C'est marrant de voir que Suse, il est ici, juste à la frontière de l'Iran, près de l'Irak. Et Jérusalem n'a pas changé de place. Hein. Et c'est marrant de voir que cette zone-là du monde est continuellement en conflit. L'Iran et l'Irak, on en a encore parlé il n'y a même pas 15 jours. C'est une zone où vraiment, il y a toujours eu des conflits. Alors Néhémie, il est échanson du roi. Officier chargé de servir les vins du roi. Entre guillemets, il avait la vie du roi entre ses mains. Il était probablement responsable de sa sécurité. Il était en contact direct avec le roi perse. Si on voulait transposer à aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est le chef du Secret Service, si je le dis bien, dans le bureau ovale de Donald Trump. Mais c'est un immigré, un juif, qui se trouve loin de son pays. C'est aussi, ce n'est pas un spécialiste religieux. Ce n'est pas un homme de loi. Ce n'est pas un sacrificateur comme Esdras. Non, c'est un homme normal, un laïc, avec un travail normal. Pourtant, nous allons voir qu'il a une théologie tellement grande de Dieu et de son peuple. La situation de Néhémie, elle est à l'inverse de son peuple. Néhémie, il a une situation montante qui le conduit vers les plus hautes positions de l'époque. Le roi perse était, on pourrait dire, l'homme le plus puissant de la terre à cette époque-là. Pour ce qui est d'Israël, c'est autre chose. Il est loin, le temps des rois David et Salomon. En 587, avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor, le dieu du feu, détruit Jérusalem, la ville sainte, la ville de Dieu, déporte les Juifs vers la Syrie et vers Babylone. Babylone, ça veut dire confusion. Puis ensuite, ils sont de nouveau déportés en Perse. Mais continuons le récit. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Néhémie est dans les couloirs du palais royal et il rencontre un frère. On ne sait pas si c'est son vrai frère ou si c'est un frère comme nous on peut dire, mais il rencontre Hanani. Hanani, ça veut dire l'Éternel est compatissant. Et Hanani, il revient de Jérusalem. Alors Néhémie, lui, n'a sûrement jamais été à Jérusalem. Il a été déporté vers la Perse et il est plus que probablement né là-bas. On ne le dit pas, mais Néhémie fait une chose. Il s'intéresse. Il s'intéresse à son peuple. Et nous allons voir qu'il ne s'intéresse pas qu'à son peuple, mais qu'il s'intéresse à la gloire de Dieu. Il aurait pu ne pas s'intéresser, il aurait pu juste dire bonjour mon frère, et continuer son chemin. Mais non. Il s'intéresse, il a un grand intérêt à son peuple et à la réputation de son Dieu. Est-ce que je m'intéresse aux choses de Dieu? Est-ce que je m'intéresse au spirituel? Est-ce que je suis intéressé par mon propre état spirituel? Est-ce que je suis intéressé par l'état spirituel de ma famille? Et quelque chose qui s'applique peut-être plus encore à nous, est-ce que je suis intéressé par l'état spirituel de mon Église? Est-ce que la gloire de Dieu et sa réputation sont une priorité dans vos vies, comme pour celle de Néhémie? Mais on va regarder au verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches et les portes sont détruites. Waouh ! Les nouvelles ne sont pas bonnes. Jérusalem se trouve dans un état de malheur et de déshonneur. Les murailles sont détruites, les portes sont brûlées. On voit un état spirituel de ruine et de décombre. Ils sont tournés en dérision, eux et leur Dieu. Tous les voisins des provinces perses et au-delà de l'Euphrate se moquent d'eux. Les murs symboles de protection sont abattus. Les portes symboles de louange sont brûlées. Et le nom de l'Éternel est tourné en ridicule. On s'est intéressé à notre bilan spirituel, mais est-ce que vous avez déjà fait un bilan spirituel de votre vie? Quel est mon état spirituel? Quel est l'état spirituel de ma famille? Quel est l'état spirituel de notre Église? Ou autrement dit, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est peut-être votre travail? Est-ce que c'est votre argent? Est-ce que c'est votre réputation? Ou est-ce que c'est l'honneur et la gloire de Dieu? Nous ne savons pas si Néhémie connaissait déjà la situation de son peuple ou s'il vient juste de l'apprendre, mais cela lui fait un énorme choc. Il va être complètement abattu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais et pendant des jours je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Néhémie a probablement un emploi du temps très chargé. Mais quand il entend cette mauvaise nouvelle, il s'arrête, il s'assoit, il pleure. Il est dans le deuil et il prie. Quel constat ! Ça, c'est bizarrement. Pour Néhémie, on pourrait considérer que tout va bien pour lui. Il a une situation parfaite, il a une vie parfaite, il a un emploi parfait. Mais pourtant, quand il entend cette mauvaise nouvelle, il est complètement affligé, complètement abattu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être complètement affligé, complètement abattu suite à une nouvelle qui vous pousse à vous arrêter? Peut-être cela ne vous est jamais arrivé ou peut-être ça vous est déjà arrivé. C'est souvent dans des situations de maladie ou de cancer pour nous ou pour un proche ou dans une situation de deuil qu'on a besoin de s'asseoir, de pleurer et de prier. J'ai eu l'occasion, moi, avec ma famille, une fois, ça a été très bizarre quand même, on a eu un oncle qui avait un cancer, qui est décédé il y a 2-3 ans. C'était prévu, on le savait. Donc la famille était prête. Sauf qu'on a enterré mon oncle. Le lendemain, c'est l'autre oncle qui mourait, mais là, d'une crise cardiaque. Et je peux vous dire que là, dans toute la famille, tout s'est arrêté. On s'est retrouvés dans la cour de sa maison. Il y avait tout le monde. Il y avait les cousins, les cousines, les sœurs, les frères. Tout le monde était là. Tout le monde avait arrêté tout et on s'était retrouvés pour soutenir toute la famille. Mais revenons au texte. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cet état, dans l'état de Néhémie, pour votre pays? Pour certains, ce sera la Belgique. Pour d'autres, ce sera peut-être la Pologne. Est-ce que vous êtes déjà mis dans cet état pour votre ville? Avez-vous déjà, ne serait-ce que pleuré, pour l'état de ruine et de désolation spirituelle de votre ville? Cette ville où les habitants se sentent tout-puissants, qui n'ont pas besoin de Dieu, où chacun est son propre Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à l'état spirituel de votre église ici à Glen? Avez-vous déjà pleurer pour votre Église. Sur ces 5 dernières années, ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer pour mon Église, réellement pleurer. Vous êtes-vous déjà mis dans cette étape pour l'honneur et la gloire de Dieu? Et c'est l'enjeu ici que Néhémie a bien compris. L'honneur et la gloire de Dieu n'est pas respecté. Néhémie a le cœur complètement brisé. Et je pense que c'est à cet instant que se produit un réveil dans la vie de Néhémie. Je pense qu'on attend toujours tous des grands réveils. Mais le réveil, il commence dans des vies. Il commence personnellement dans des vies. Néhémie se rend compte que ça ne doit pas rester ainsi, qu'il faut agir. Mais c'est assez impressionnant. Vous allez voir comment Néhémie va entreprendre ça. Comment Néhémie va réagir face à cette nouvelle et face au réveil dans sa vie. Néhémie ne va pas aller courir chez l'empereur. Il ne va pas aller dire « Oh, il faut faire quelque chose, ça ne va pas, Babylone, Jérusalem est détruite. » Non, non, non. Surtout que ça aurait pu être dangereux pour sa vie à l'époque. Les lois des Mèdes et des Perses, c'était quelque chose qui avait une mauvaise réputation. Mais regardez ce qu'il va faire. On va lire les versets 5 et 6. Et je dis, ah, éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts pour exaucer la prière de ton serviteur. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. Alors qu'est-ce qu'il va faire Néhémie? Il va se mettre en prière. Il va prier Néhémie. Il va se rendre compte de sa petitesse. Il va se rendre compte que par ses propres forces, il ne peut rien faire. À vue humaine, c'est impossible. Surtout que dans Esdras 4, les versets 16 à 21, on ne va pas les lire, mais si vous voulez aller voir, le roi Artaxerxès a déjà fait arrêter les travaux de reconstruction de Jérusalem et de sa muraille. Il avait même dit que ça ne pourra recommencer que si je l'autorise. Moi, si j'avais dû faire une prière à ce moment-là, j'aurais peut-être dit, « Seigneur, tu connais le problème, alors règle-le. » Mais ce n'est pas ce que Néhémie va faire. Commençons nos prières. N'avons-nous pas tendance, moi aussi, à faire des prières courtes, avec le strict minimum? N'avons-nous pas tendance, des fois même, à négocier avec Dieu? À lui dire, si tu me donnes ça, je ferai ça. Prendre un exemple qui n'a pas trop nous concerné, mais si tu me fais réussir mes études alors que je n'ai pas étudié, je deviendrai missionnaire. Mais regardez combien de temps Néhémie va prier. La prière de Néhémie était loin d'être courte. Au verset 3, on nous parle il nous parle de plusieurs jours. Et les commentateurs considèrent qu'il a prié du mois de Kislev. Donc si vous regardez le verset 1, le mois de Kislev, donc le mois de novembre-décembre du calendrier perse, jusqu'au mois de Nissan. Alors je ne l'ai pas lu ça, mais c'est le premier verset du chapitre 2, qui correspond plus ou moins au mois de mars-avril. Donc on considère que Néhémie a prié jour et nuit, il le dit, il a prié pendant 3 à 4 mois. Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit. Quelle prière fervente, quelle persévérance. Alors je ne pense pas qu'il ait prié 24 heures sur 24. Hein. C'est peut-être humainement impossible. Mais il était dans un état de prière continuelle. Mais on va maintenant regarder comment Néhémie aborde sa prière. Et cette prière, elle a, je trouve, beaucoup de similitudes sur l'enseignement que Jésus nous donne sur la prière dans Matthieu, donc le Notre Père. D'abord, il commence sa prière dans un esprit d'adoration et de louange. Il prie Dieu pour ce qu'il est. On peut lire Dieu des cieux, grand et redoutable. Alors, je suis allé voir la définition de redoutable. Redoutable, c'est très grand. Redoutable, ça veut dire craint fortement. Et on va reparler de la crainte de Dieu à la fin du message. Donc on a un Dieu des cieux, grand et redoutable, mais aussi bienveillant ou bon envers ceux qu'il aime et qui gardent ses commandements. On a aussi un Dieu fidèle, il garde l'alliance. Il a fait des promesses et elles vont s'accomplir. Néhémie met les choses en perspective. Il sait qu'il a un grand Dieu. Il sait qu'il est au contrôle de toutes choses. Et en se rendant compte de ça, je suis sûr qu'il va déjà beaucoup mieux. Le problème, c'est que souvent, on est accablé par le poids de nos soucis. Nous ne voyons pas de solution. La panique et la crainte s'emparent de nous. Et c'est révélateur d'une grande incrédulité. Nous montrons que nous croyons plus en nos soucis qu'au Dieu des cieux, ce Dieu grand et redoutable. Nos soucis sont grands parce que notre Dieu est petit. Quelle est la taille plutôt du Dieu des cieux dans votre vie? Quelle est la taille du Dieu des cieux dans votre famille? Quelle est la taille du Dieu des cieux dans notre Église? Ensuite, il va prier pour l'exaucement de sa prière. Il demande au Dieu des cieux, au Dieu grand et redoutable, il lui demande d'avoir une oreille attentive, de l'écouter et des yeux ouverts. Or cela aurait pu paraître prétentieux. Il s'adresse quand même au Dieu grand et redoutable. Il lui manque peut-être de respect. Mais regardez un peu dans le texte. Il ne vient pas avec ses propres forces. Il ne vient pas avec la liste des choses qu'il a accomplies. Regarde Dieu comme je suis fort. Regarde tout ce que j'ai accompli. Non, il vient à Dieu tel qu'il est. Il ne vient pas à Dieu avec un masque. Il se présente à Dieu tel qu'il est, les mains vides, avec un grand besoin de grâce. Il remet les choses en perspective. Il a prié Dieu d'abord pour qui il est, maintenant il va prier Dieu pour qui il est lui. Et qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce qu'il est lui? Un pécheur. Il prie pour la confession des péchés. Il a compris que c'était le plus important pour s'approcher de Dieu. Il sait que Dieu a horreur du péché. Et ceux qui ne gardent pas ses commandements, pour faire référence à ce qu'il disait, qu'il aime ceux qui gardent ses commandements, mais qu'il n'aime pas ceux qui ne gardent pas ses commandements. Il sait que pour avoir l'exaucement de sa prière, il faut une confession. Il faut se rendre compte de son état de pécheur et demander sincèrement pardon. Comme dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses. Il est également intéressant de voir que Néhémie prie pour les péchés des Israélites. Je pense que vous avez remarqué ça. Il n'est pas responsable des péchés de son peuple, puisqu'il n'était probablement pas là et qu'il est né en Perse. Pourtant, à la fin du verset 6, on peut lire « Je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs et les Israélites, en confessant les péchés des Israélites, nos péchés contre toi. Moi et ma famille, nous avons péché. » Regardez les péchés. D'abord, il va dire que c'est les péchés des Israélites, puis ensuite, il va dire nos péchés, il les prend quand même pour lui, et puis il va dire moi, mes péchés, moi et ma famille, nous avons péché. Il sait qu'il est un pécheur, qu'il n'a pas respecté les commandements de Dieu. Il s'associe au péché de son peuple, mais aussi il est conscient de son propre péché. Au verset 7, il est écrit « Nous avons mal agi envers toi. Nous n'avons pas observé les commandements, les prescriptions et les ordonnances que tu as données à Moïse, ton serviteur. » Néhémie connaît la Torah. Il sait les conséquences du péché pour les Juifs. Et les conséquences, on les trouve au verset 8. « Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèles, je vous disséminerai parmi les peuples. » Si nous ne respectons pas ces commandements, le peuple ici a été décimé. C'est dans l'état dans lequel il se trouve à l'époque de Néhémie. Mais après avoir prié Dieu pour qui il est, et après avoir prié Dieu pour qui il est lui, un pécheur, il va alors faire sa requête. On peut la lire à partir du verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu as prescrite à Moïse, ton serviteur. Lorsque vous serez infidèle, je vous disséminerai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, alors même que vous serez banni à l'extrémité du ciel, là, je vous rassemblerai, je vous ramènerai vers les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et par ta main forte. Or, sur quoi Néhémie va baser sa prière? Souviens-toi de cette parole. Alors ici, on se base, nous, sur la Bible. Lui, il se basait sur la Torah. Et il se base, en réalité, sur deux versets. On va aller voir dans Deutéronome. Regardez, je ne prends pas trop de temps, mais ça va. Deutéronome 9, versets 26 et 29. Deutéronome 9, 26 à 29. Je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as libéré par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par une main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac, Jacob. N'aie pas d'égard à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché. De peur que les gens du pays d'où tu nous as fait sortir, ne disent. C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les faire entrer dans le pays qu'il leur avait promis. Et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple, ton héritage, que tu as fait sortir d'une grande puissance et d'un bras tendu. Et Deutéronome 30, versets 4 à 5, c'est agréable d'entendre les pages. Quand tu serais banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là. Et c'est de là qu'il te prendra. L'Éternel ton Dieu te fera revenir dans le pays que possédaient tes pères. Et tu en prendras possession. Tu le feras, tu te feras du bien et il te fera du bien, pardon, et reprendra et te rendra plus nombreux que tes pères. C'est sur cette base-là que Néhémie va fonder sa prière, sur parole de Dieu et aussi sur les promesses. C'est une promesse en réalité qu'il fait ici. Alors il l'a fait aux Égyptiens, mais elle est encore d'actualité pour les exilés et là encore d'actualité pour nous aujourd'hui. La parole, les promesses. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a des prières qui peuvent être directement exaucées? On peut être sûr que ces prières vont être exaucées. C'est ce que fait Néhémie en réalité ici. Si nous, on devait dire aujourd'hui, par exemple, une prière qu'on peut être sûr qu'il va être exaucée, si on prie que Jésus revienne un jour, on ne sait pas quand, mais on peut être sûr que ça va arriver parce que c'est une promesse. Si on prie sur base des promesses que Dieu nous a faites, on peut être sûr qu'elles vont s'exaucer. Néhémie sait que son peuple, la ville de Dieu, va un jour être rétablie parce que c'est une promesse et qu'il l'a déjà fait auparavant. Sur sa parole, sur ses promesses, et ce que je dis depuis le début du message, sur son nom, sur la ville où va résider son nom. De nouveau, Néhémie met l'accent sur le nom de Dieu, sur le nom, l'honneur et la gloire de son nom. Il dit à Dieu qu'il ne peut pas laisser son nom sali et bafoué ainsi. C'est sa réputation, car il est le peuple choisi par Dieu. Malgré des siècles d'infidélité, c'est le peuple qui est associé à son nom. Et nous avons aussi ce nom qui est associé à nous. Ce nom qu'on peut voir dans notre Père. Que ton nom soit sanctifié, cette importance du nom de Dieu. Verset 10. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as libéré par ta grande puissance et ta main forte. Néhémie sait qu'il a un Dieu puissant. Et il dit ici qu'il a déjà libéré son peuple de la main des Égyptiens. Il sait qu'il peut encore le faire, que ce n'est qu'il n'y a aucun problème pour lui à faire ça. Les termes que Néhémie utilise, c'est exactement donc les mêmes termes qu'on a lus dans le Deutéronome, c'est « libérer, délivrer ». Alors, ce n'est pas une mauvaise chanson de Disney, mais ça veut littéralement dire « rachat ». Il s'agit d'une rédemption, comme Dieu l'a fait pour délivrer les Israélites de la main des Égyptiens. Néhémie est dans la même situation. Et il fait cette prière, il fait cet appel à Dieu. Nous avons donc un homme, Néhémie, avec le cœur brisé, qui se met à prier avec ferveur et persévérance, sur base de la parole, sur base des promesses faites par Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu grand et redoutable. Et tout ça, pourquoi il le fait? Pour l'honneur et la gloire de son nom. On va voir que, au verset 11, on va lire, « Ah Seigneur, que ton oreille soit donc attentive à la prière de ton serviteur, et que la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. J'étais alors et chanson du roi. » Qu'est-ce que ce dernier verset nous enseigne encore? D'abord, il prie pour avoir une oreille attentive. Il prie en réalité pour que Dieu l'écoute. Pour qu'il l'écoute pourquoi? Regardez. Pour qu'il écoute sa prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. J'ai parlé tout à l'heure de la crainte du nom. Alors à la réunion de prière, je pense pas cette semaine-ci, il y a 15 jours, Marie-Paul m'a demandé ce que c'était craindre ton nom. Et j'avais l'impression que ça avait des conséquences énormes. Alors je suis allé voir la définition dans le dictionnaire. On va d'abord voir ici. J'ai juste pris, je ne sais pas ça habituellement, plusieurs versions de Bible pour la traduction. Donc, il prie pour ceux qui veulent craindre ton nom. Dans ma version, qui désirent craindre ton nom. Alors la Français courant, elle va dire ça autrement. Elle va dire qu'ils trouvent leur joie à t'honorer. Craindre le nom de l'Éternel, c'est l'honorer. Et moi, celle que je préfère, c'est une version où je lis beaucoup dedans, c'est la version Darby. Pourquoi est-ce que je lis dans cette version? Parce qu'elle est fort proche de l'hébreu et du grec. Mais pour l'utiliser, c'est assez difficile parce qu'elle les prend vraiment mot pour mot. Et c'est pour ça que je pense pas que je prêcherai un jour avec une version Darby. Mais elle dit ça. Pour ceux qui prennent plaisir à craindre ton nom. Est-ce que vous prenez plaisir à craindre le nom de l'Éternel? Alors, je suis allé voir la définition. La définition dans un dictionnaire biblique, bien sûr, le dictionnaire de Westphal. Alors, il y a beaucoup de choses, ça, je ne vais pas tout dire. Mais si vous voulez, je peux vous donner une copie. Après, il y a des versets aussi, chaque fois, qui sont attachés. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment d'une créature faible, misérable, devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur. Un sentiment d'une disproportion effrayante, en même temps qu'une étroite dépendance. Cette crainte, elle est éveillée dans les cœurs, non seulement par la juste sévérité de Dieu, mais aussi par ses bienfaits. La crainte de Dieu, c'est le début de la connaissance et de la sagesse. Elle implique une acceptation de l'autorité souveraine de Dieu et du désir de faire sa volonté. Alors elle est liée, cette crainte de Dieu, à des bienfaits. Mais attention, j'ai parlé d'un Dieu grand et redoutable. Et cette crainte, elle peut être liée à la peur, dans un seul cas. Pour celui qui repousse le salut et qui s'obstine à la désobéissance. Cette crainte de Dieu peut être redoutable pour celui qui refuse le message de Christ, qui refuse et qui s'obstine et qui désobéit. Et on va encore voir deux choses. On va arriver au bout. Ah, je ne suis pas... Ah, voilà. J'ai mis plus de temps quand je l'ai répété. À la fin du verset, il va encore nous enseigner deux choses. Néhémie avait un plan. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Néhémie n'est pas resté assis. Et ça, c'est pour nous, pour moi, que j'applique ça personnellement. Il n'est pas resté assis sur sa chaise et prié uniquement. Non, il avait quelque chose en tête. Il avait un plan. Il avait des projets. Il n'a pas attendu que tout lui tombe du ciel. Je vais attendre que Dieu me dise ce que je dois faire. Non, il s'est mis en marche. Il a pris les choses en main. Et Néhémie avait une situation. Dans ce cas-ci, il était les chansons du roi. Il n'était pas n'importe qui. Il était le numéro 2 presque en Perse. Mais il avait à cœur l'état de son peuple. Et surtout, la gloire et l'honneur de Dieu. Peut-être que ce message parle plus particulièrement à ceux qui, pour qui tout va bien. Tout va bien dans ma vie. J'ai un bon emploi, j'ai un bon travail, tout va bien. Mais c'est là où Dieu nous rappelle que c'est peut-être là aussi que vous avez un grand rôle à faire et agir. On va encore voir une dernière chose. C'est que Dieu, c'est que Néhémie, dans sa prière, il va dire, donne du succès à ton serviteur et fais-lui obtenir la faveur de cet homme. Alors regardez, le roi, cet homme, c'est en réalité le roi Artaxerxès. Il va le mettre au même niveau que lui, un homme, devant ce Dieu grand et puissant. Il va rappeler que le roi n'est que un pion, si on veut, n'est que quelqu'un que Dieu va utiliser dans son plan parfait. Et alors, pour vous préparer au prochain message, au chapitre 2, nous allons voir que Dieu a répondu à la prière de Néhémie. Il va lui donner les faveurs du roi et du succès. En partie, on va être très mitigé par rapport au succès, mais on en reparlera dans les autres chapitres. Pour conclure, je voudrais vous parler d'une promesse. Alors, je pense que j'ai parlé de Deutéronome, mais il y a aussi une promesse que Néhémie devait avoir en tête, une promesse qui se trouve dans les chroniques. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, je vais tout de suite faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je pense que ces paroles ne s'adressent pas nécessairement à nous. Ça va ? Mais on va voir comment on peut les prendre pour nous, à la lumière de ce qu'on sait, à la lumière de la parole qu'on a, à la lumière de Jésus. Première chose, si mon peuple, alors on n'est pas israélite, on n'est pas juif, donc ça va déjà faire bizarre, si mon peuple, mais qu'est-ce qu'on peut voir dans la parole ? Si on acceptait Christ comme sauveur et seigneur de notre vie, on ne parle plus nécessairement de peuple, il y en a un qui l'a prié dans sa prière tout à l'heure, on est enfant de Dieu. Ce nom aussi qui est invoqué, donc la deuxième partie, sur qui est invoqué son nom. Le nom que nous devons invoquer, c'est Jésus. Jésus mort pour nos péchés. Jésus, c'est le plus bon nom, j'aurais pu vous chanter ça. Jésus, c'est le plus bon nom. Et Jésus fait maintenant une nouvelle alliance avec nous, avec chacun d'entre nous, par pure grâce. Mais on a quelque chose à faire. On a notre part aussi à faire par rapport à ça. Le premier, c'est s'humilier. Qu'est-ce que c'est s'humilier ? C'est avoir une pensée correcte au sujet de Dieu. C'est évaluer qui on est devant ce Dieu des cieux, ce Dieu grand et redoutable. On aurait pu lier cette humilité à la crainte de Dieu aussi. Je pense que la crainte de Dieu liée aussi à l'humilité. Et vous voyez, juste faire l'inverse d'humilité. L'inverse d'humilité, c'est orgueil. Si nous avons trop d'orgueil, nous n'avons pas d'humilité. Première chose donc, s'humilier. La deuxième, prier. Alors, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé beaucoup aujourd'hui de la prière. Comment aborder la prière? Troisième chose, je cherche sa face. C'est ce que nous cherchons personnellement à connaître le Dieu de sa parole, le Dieu de ses promesses. Bon, je ne vais pas l'enlever, sinon je vais faire tomber toutes mes feuilles. Mais... Hop. C'est dans la Bible que nous allons trouver cette parole, cette promesse. C'est dans la Bible que nous allons chercher sa face. Par la prière également. Mais quelle est l'importance de cette parole, de cette Bible pour vous, dans vos vies? Est-ce que c'est une belle Bible avec des belles dorures, là, qui est dans une étagère, ou est-ce qu'elle a une grande importance pour vous? Ces deux-là, c'est la prière et le fait de chercher sa face, ça va nous donner aussi une relation que nous allons avoir avec le Dieu grand et redoutable. Ensuite, quatrième chose, On en a parlé aussi plusieurs fois par rapport au peuple. Et surtout, se détourner de ses mauvaises voies. Bon, j'aime moins, ça a l'air tout gentil comme ça, mais nos mauvaises voies, c'est nos péchés. Nous sommes tous pécheurs. Le peuple était pécheur. Néhémie était pécheur. Mais nous ne valons pas mieux. On est aussi tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de pardon. Dans Romains 3, 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Notre péché nous empêche d'avoir accès à la gloire de Dieu. Mais si nous confessons nos péchés, si nous nous tournons vers Christ, alors il nous donne accès à la gloire de Dieu. Et voyons ce que Dieu va faire alors. Si nous humilions, si nous prions, nous cherchons sa face, et si nous nous détournons de nos péchés, alors là, Dieu dit, le Dieu grand et redoutable, il dit, je vous exaucerai. Je vous écouterai. On a parlé plusieurs fois de cette oreille attentive de Dieu. Et qu'est-ce que je fais aussi? Je vous exauce et je pardonnerai vos péchés. Alors cette phrase, elle a une toute autre saveur pour nous par rapport au peuple d'Israël. Nous n'avons plus besoin de faire des rituels, des sacrifices. On n'a plus besoin d'avoir un sacrificateur comme Esdras pour porter nos péchés. Non, nous avons Jésus, le seul qui n'a pas péché, le seul qui n'a pas commis de péché, mais qui s'est donné lui-même en sacrifice pour nous sur la croix. Il est mort sur cette croix pour faire, comme j'ai dit tout à l'heure, une nouvelle alliance, un vin nouveau. Une alliance perpétuelle. Il n'y a pas besoin de la recommencer chaque fois. Il l'a fait une seule fois, une fois pour toutes. Et qu'est-ce que ça apportera alors? Je guérirai. Alors ici, là, je pense que cette phrase-là, il faut la changer. Il ne guérira plus ce pays, mais il va guérir ce cœur. Ce cœur qui était mauvais, qui m'empêchait de me présenter devant Dieu. Eh bien, Jésus l'a rendu propre. Ce cœur qui était noir, par son sang, il a fait en sorte que nous soyons guéris. Il n'y a plus une guérison d'un peuple, mais c'est une guérison personnelle. Pour autant que vous ayez confessé vos péchés, que vous désirez mettre Dieu à la première place de votre vie. Alors voilà un peu si j'avais dû changer la formulation de ce texte, ce serait si Joël, si Lilo, si Daniel, si Clarisse, si Camille, si Myriam, si Edwige invoquent le nom de Jésus. S'humilie, prie, cherche ma face et confesse son péché. Alors Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son cœur. Si nous nous détournons de nos péchés, si nous cherchons sincèrement Dieu dans une attitude d'humilité et de crainte de Dieu, nous avons la certitude qu'il nous exaucera, qu'il pardonnera nos péchés et qu'il nous guérira. Amen.
Amen.
On va prier. Ah, Dieu des cieux, grand et redoutable, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de ton Église. Aide-nous à considérer ton honneur et ta gloire comme ce qui est de plus important. Pardonne-nous si nous t'avons offensé. Pardonne-nous si nos activités, si nos actions, si notre péché a déshonoré ton nom. Aide-nous à être une famille qui déborde de ton amour pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, puisque j'ai le temps, j'aurais peur que je n'aurai pas de ne pas la voir. Je vous invite à ce chapitre de chronique qui est un chant. Et je vous invite à le chanter.
Testament, mais je vais quand même vous lire ce passage dans le psaume 51 qui fera écho au message de Michael ce matin. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. Tu n'agrées pas l'holocauste. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. Alors après tout ce que nous avons entendu ce matin, et avec le message de Michael, nous ne pouvons faire qu'une chose, louer et exalter notre Seigneur et Sauveur. Et pour ce faire, nous allons chanter un dernier chant, le chant numéro 39, « Je t'exalterai Seigneur ».
Yeah.
recevez la parole d'exhortation. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, fermant la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.